Plan Large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Des héros singuliers ce samedi dans Plan Large avec Antoine Rimbaud et Viggo Mortensen et aussi Nicolas Peduzzi et encore Charlotte Garçon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. Ce sont deux films qui empruntent des formes hollywoodiennes classiques pour les rénover de l'intérieur et parler du monde d'aujourd'hui. Le premier s'inscrit dans les formes du techno-thriller qui, en s'inspirant d'authentiques scandales sanitaires, dévoile le fonctionnement obscur des institutions. S'y sont illustrés notamment Steven Soderbergh avec Erin Brockovich et The Informant, Todd Haynes avec Dark Waters ou Michael Mann avec Révélation. N'en jetons plus, comme dans ce dernier, Révélation, c'est contre l'industrie du tabac et ses manœuvres clandestines pour évincer un commissaire européen qui s'apprêtait à faire adopter une directive nuisible à ses intérêts que va se battre le héros d'une affaire de principe, le nouveau film d'Antoine Rimbaud après une intime conviction il y a 5 ans. Un drôle de héros qui a les moustaches, la faconde et le côté punk de José Bové, et pour cause, c'est bien l'alors député européen écologiste qui mène l'enquête et nous fait tout à la fois comprendre le fonctionnement, méconnu pour la plupart, de ce haut lieu démocratique qu'est le Parlement européen. Antoine Rimbaud nous en dira plus dans un instant. Drôle de héros aussi que celui qu'incarne Viggo Mortensen dans son second film, encore un second film, comme réalisateur, Jusqu'au bout du monde, un western, tout ce qu'il y a de plus classique en apparence, sauf que le cow-boy, danois d'origine comme son interprète, est tout à fait déconstruit, comme on le comprend aujourd'hui, que son amoureuse, qui ne s'en laisse pas et québécoise, c'est Vicky Cripps qui l'incarne et qui rôde la figure de Jeanne d'Arc. Mais oui, nous avons rencontré Viggo Mortensen lors de son passage à Paris, nous l'entendrons tout à l'heure. Dans le journal du cinéma, le documentariste du Borderline, Nicolas Peduzzi, nous dira ce qu'il est allé chercher à l'hôpital Beaujon, sur les pas d'un psychiatre dans l'œil du cyclone, le film s'appelle État limite. Et en fin d'émission, Charlotte Garçon nous donnera à lire les fulgurantes paroles de Chantal Akerman rassemblées dans un magnifique livre, Chantal Akerman, œuvre écrite et parlée. Mais pour l'heure, tout commence par une visite des lieux. Ne vous laissez pas impressionner par les acronymes.
C'est quoi les réunions qui vous concernent ?
Tout ce qui touche à la PAC. L'EFSA, le CETA, le BCAO, le COPACOGECA. Ouais, j'espère que t'aimes bien les acronymes, quoi.
On est au quatrième ou au cinquième, là ?
Cinquième. Au bout de 2-3 mois, on se repère.
3 mois, c'est la durée de mon stage.
Ah, c'est pas plus ?
Avec vous, c'est seulement 3, mais après, j'ai un autre stage au 3e.
Tu te débrouilles bien, toi ?
Non, mais en fait, j'ai pas fait exprès. À la base, j'avais demandé un autre stage, qu'on m'a refusé, et après, j'ai postulé chez vous. Mais l'autre, en fait, c'était bon. Mais du coup, pour la rentrée, quoi.
Donc, en vrai, on est au plan B, quoi.
Merci. Oui, voilà, enfin... non, vous êtes pas mon plan B, je voulais pas dire...
Non, je disais ça pour rire. Non, t'inquiète pas, non. De toute façon, on a l'habitude, personne ne peut nous blairer ici.
Ah bon ?
Tu parles anglais ?
Ah, oui, ça va.
Et on m'a dit que tu faisais du droit.
Nous y. On fait que ça.
Moi, c'est vraiment ça, mon truc. La justice, c'est toute ma vie.
Attention que la justice, c'est pas le droit. Oh.
Comment ça ?
Non, pas vraiment, pas toujours. Si c'est ça que t'attends, tu risques d'être déçu. Parce qu'ici, nous, c'est dans le droit qu'on croit.
Disons que le droit, ça aide à garder la tête froide, tu vois.
Bonjour Antoine Rimbaud.
Bonjour.
La justice, ce n'est pas le droit, dit José Bové, dans la voix de Bouly Lanners à la jeune stagiaire qui l'accueille. La justice, c'était le sujet de votre premier film en 2019, une intime conviction. Vous voilà donc passé d'une institution à une autre. Qu'est-ce qui vous intéresse autant dans ces lieux à la fois de pouvoir et d'exercice démocratique, Antoine Rimbaud ?
Alors là, ce qui m'intéressait précisément, c'était l'incarnation du contre-pouvoir. Mais finalement, le premier film aussi, parce que l'avocat de la défense est au cœur même du dispositif judiciaire, l'incarnation du contre-pouvoir. En fait, j'ai été nourri de beaucoup de films américains, d'enquêtes. J'ai le goût de ça en tant que spectateur. Et j'ai voulu tenter de recoloniser ça en faisant un film européen avec un ADN bien particulier. C'est un film français, fait par des Français, mais tourné à Bruxelles, à Strasbourg, à Malte, donc en Europe, avec des acteurs européens. Et effectivement, les protagonistes, j'avais pas vu ça encore, ce sont des parlementaires et des assistants parlementaires qui mènent l'enquête. Pas des policiers, pas des journalistes, des parlementaires.
Voilà, ce qui fait déjà un héros particulier. On va y revenir, mais en tout cas, on l'a entendu dans cette scène. On suit les premiers pas d'une stagiaire qu'on découvre, nous, comme spectateurs, avec elle. Et c'est avec elle qu'on découvre le Parlement européen. Elle a l'énergie, le phrasé unique de Céleste Brunkel, hein, une des vraiment jeunes actrices les plus passionnantes à suivre actuellement. Vous l'avez pensé comme ça, comme un véhicule du spectateur, cette stagiaire, ou comme un aiguillon un peu d'idéalisme, de jeune idéalisme dans un monde politique un peu trop huilé?
Eh ben, un peu de tout ça, mais avant d'être le véhicule du spectateur, c'est mon point d'entrée à moi dans le Parlement. C'est-à-dire que c'est le personnage dans lequel je me projette. Je suis allé faire plusieurs visites au Parlement. J'ai été accueilli par Jean-Marc Desfils, qui est le vrai assistant parlementaire de José Bové, qui a mené l'enquête avec lui, qui est toujours assistant parlementaire. Il me fait faire le tour du Parlement. Il fait quelques plaisanteries sur l'art contemporain et l'extrait qu'on vient d'entendre, même si je n'ai pas fait de stage dans cette équipe. C'est un peu mon entrée dans le Parlement. Et donc, oui, Céleste, le personnage qui est joué par Céleste s'appelle Clémence, est le meilleur moyen pour le spectateur d'entrer dans cette histoire, parce qu'elle n'a pas les codes et elle pose les questions que se pose le spectateur, que je posais moi à ce moment-là. Et je me suis reglissé dans cette enquête qui est bien réelle. J'ai refait cette enquête quelque part avec mon co-scénariste Marc Sirigas. Et du coup, ce personnage de Clémence, vraiment, c'est le personnage dans lequel j'ai mis tous mes affects, quoi.
Alors, comment vous avez fait pour ne pas vous laisser dépasser, de sorte que nous ne soyons pas dépassés non plus par cette somme d'informations, par ce fonctionnement, et effectivement, qui a l'air très complexe? Je ne parle même pas des acronymes, bon, qui sont là, on va pas trop les développer dans le film non plus. Enfin, la question, c'est comment est-ce qu'on dose le réel dans un film comme ça, qui est d'autant plus indispensable à respecter qu'on raconte une histoire vraie, par rapport à la dimension romanesque du film?
Alors, effectivement, on voulait absolument pas brader la complexité, on voulait assumer et faire accepter aux spectateurs qu'encore une fois, on n'a pas les codes et que c'est pas grave. Voilà. Et donc l'idée, c'est de se concentrer très fort au début. Les 15 premières minutes sont un peu denses, mais ensuite on se laisse porter, comme quand vous attrapez un tire-fesse au ski, vous avez peur de tomber au début, et puis une fois que vous êtes assis dessus, ça va bien se passer jusqu'au bout. Voilà. Moi, j'adore ces films-là, j'adore cette typologie de cinéma où on ne comprend pas tout, mais c'est pas grave. On accepte de ne pas tout comprendre et on a cette illusion, mais c'est une illusion, d'être plus intelligent à la fin qu'au début et d'avoir le sentiment d'avoir appris un peu quelque chose. Donc, comment on fait? Ben, on assume cette densité à toutes les étapes du processus, à l'écriture, au tournage avec les acteurs, et puis au montage. Et ensuite, c'est le rythme qui nous gouverne. C'est-à-dire que on cherche un film qui soit quand même confortable, qui soit quand même ludique, dans lequel il y ait du plaisir de cinéma, qui vient compenser ce côté laborieux des acronymes, et c'est vraiment le rythme qui nous fait tailler dans cette matière et qui nous emmène sur un film d'enquête. Et un film d'enquête, par définition, ça mobilise énormément le spectateur dans un plaisir, quoi, de concentration. Donc c'est un équilibre permanent entre assumer la complexité, ne pas la vulgariser trop, et en même temps, et donc accepter qu'on ne comprendra pas tout, mais c'est pas grave, et en même temps emmener tout ça dans un souffle et dans un rythme de films de cinéma.
Oui, parce qu'il s'agit aussi de trouver des solutions de mise en scène pour montrer comment, par exemple, se montent ces alliances un peu hétéroclites et à géométrie variable qui font tout le sel du Parlement européen. Il y a cette scène très drôle à la cantine où on voit José Bové approcher les uns et les autres sans trop comprendre, sans même du tout entendre ce qu'ils se disent. Mais rien que ces groupes qui se forment et se déforment dit déjà beaucoup du fonctionnement du Parlement.
Oui, absolument. Nous, on frôle un peu des choses, on rentre dans ces espace et on pose des choses comme ça. On ne dit pas de manière explicite ça, mais on le raconte depuis cette scène à la cantine, que c'est la proportionnelle intégrale, le scrutin du Parlement. Donc il n'y a aucun groupe qui ait la majorité dans l'hémicycle. Ça veut dire que sur chaque dossier, il faut faire des alliances démocratiques transpartisanes. C'est ce que raconte cette séquence où il va à gauche, et puis là, on se frotte les mains de cette affaire d'Ali, parce que quelqu'un du camp d'en face est tombé, et puis il va à droite, tout le monde regarde ses pompes de peur de s'investir, et il est tout seul. Voilà. Et il ne trouvera pas, sur cette affaire, vraiment beaucoup d'alliés, à part deux députés, un du même bord, qui est un vert... qui s'appelle Bart Stez, flamand, et puis une députée allemande du PPE, proche de Merkel, qui n'est pas du tout de son camp, mais il va agréger autour de lui, comme ça, des députés soucieux que le droit soit respecté, et notamment par le président José Manuel Barroso, qui a l'air de s'en contrefoutre.
Ah ben, José Bové et Manuel Barroso, le voici.
La commission doit rendre des comptes au Parlement, point barre. C'est le principe même du fonctionnement démocratique. Et Barroso, je suis désolé, il doit respecter la règle comme tout le monde.
Qui êtes-vous, monsieur ?
José Bové, Europe Écologie.
Ah oui, c'est vous. C'est terrifiant, votre populisme. Que plus c'est pour un député.
Pardon, mon quoi ?
Vous m'avez très bien entendu.
Non, ce qui alimente le populisme, monsieur le président, c'est votre autoritarisme. Et cette opacité que vous entretenez, qui font naître les pires fantasmes du tous pourri chez les citoyens.
Merci pour votre cours de civisme, monsieur le député. Nous avons du travail.
Je veux dire qu'à partir de maintenant, on va les faire chier.
Faut pas énerver José Bové. Si on était dans un film américain, ça serait une sorte de cow-boy projeté à Washington, où je parle sous le contrôle de Charlotte Garçon, un Mr. Smith au Sénat. Enfin, il y a quelque chose de très capraïen dans votre film, avec ce mélange de droiture et puis d'ironie parfois un peu désabusée que peut avoir le José Bové que vous dépeignez.
Et l'optimisme aussi de ce qu'il porte et l'optimisme du film, parce que on regarde des dysfonctionnements majeurs à un endroit où ça fait très mal, mais en même temps, on croit encore dans nos institutions, et cette affaire est quand même singulière, mais elle redonne espoir. Elle m'a redonné espoir, cette enquête, quand je l'ai regardée de près, et elle redonne espoir à notre personnage de Céleste, Clémence dans le film, et j'espère aux spectateurs.
Alors, on a entendu Bové reprocher son opacité à Barroso, et ce dont vous tirez très bien parti dans ce film, Antoine Rimbaud, c'est des architectures propres au Parlement d'un côté, à la Commission de l'autre. L'un est ouvert, c'est un espace de circulation, et vous montrez beaucoup comment on y circule, et puis l'autre, c'est une sorte de bloc impénétrable, c'est le Berlaymont, hein, je crois, le nom de cet immeuble. La façade est certes de verre, mais elle est complètement opaque. Pour le coup, comment est-ce que vous avez utilisé ces lieux? Comment est-ce qu'ils ont presque dicté votre mise en scène?
Ben, je les ai regardés et puis je me suis rendu compte que le Berlaymont, qui est donc l'exécutif, la Commission européenne, ressemble à l'étoile noire dans Star Wars. J'y peux rien. Elle est effectivement habillée d'une armure métallique, qui est en fait des vitres sans teint, des espèces de brise-soleil comme ça, qui rythme le bâtiment. C'est très impressionnant et très beau, mais on ne voit pas à l'intérieur. On ne voit pas depuis l'extérieur à l'intérieur. J'ai trouvé que c'était intéressant ce que ça racontait. Et j'ai remarqué assez vite que le Parlement est une institution transparente qui cultive sa transparence, qui se donne à voir notamment à la fiction, qui a laissé rentrer notre tournage et avant nous la série Parlement aussi. Ils ont bien compris l'enjeu de ça. La commission, elle, cultive son sens du secret et du mystère, et on ne rentre pas dans la commission si facilement. Donc effectivement, on a mis en opposition, c'est les grands thèmes du film, quoi, la transparence et la démocratie face aux intérêts particuliers des lobbies qui, dans cette affaire, semblaient se cacher derrière la porte du président de la Commission européenne de l'époque, José Manuel Barroso. Donc j'ai observé ces bâtiments et décidé, de toute façon, notre notre point de vue est celui du Parlement et des parlementaires, on est avec eux, et donc on ne voit de la Commission que quelques silhouettes à travers les vitres quand on se rapproche au téléobjectif. On a réinventé tout ça grâce aux outils du cinéma, on a filmé personne en douce depuis l'extérieur de la Commission, mais on voit de la Commission assez peu de choses, quoi. On entrevoit des choses, mais effectivement, on comprend que tout ça nous échappe.
Oui, parce qu'il s'agira d'ouvrir une fenêtre, on ne dira pas comment, dans cette commission pour en laisser sortir
un bout de
preuve. Alors il y a des scènes d'action comme ça, on suit des gens parfois sur des quais de gare. Enfin, on est vraiment c'est côté thriller, mais l'action en général est portée par la parole dans votre film, sans que ce soit jamais un ennui profond pour le spectateur. Au contraire, on est complètement pris par cette parole, mais vous avez voulu faire de la parole une action. En permanence.
Oui, et ça... Alors, mon premier désir de cinéma, c'était effectivement un film mu par la parole, ce qui est toujours assez casse-gueule, parce que le cinéma, c'est du mouvement, des images et de l'action. Mais quand on rencontre José Bové, on comprend très vite que sa façon de faire la politique, c'est précisément sur le terrain, dans l'action. Alors, il vient du militantisme et du syndicat, de l'action syndicale. Il a fauché des champs OGM, il a démonté un McDonald's, et on comprend que ce film qu'on imaginait très bavard et très dense, bon, ça l'est resté, mais il va partir de la parole pour aller vers l'action. Et donc, on a trouvé des façons de transformer en cinéma et en action tout ce qu'on a découvert de cette enquête. Et il y a un plaisir aussi qui vient directement de José Bové, qui a toujours un grand sourire quand il nous raconte ses bagarres et qui prend beaucoup de plaisir et qui cite Camus et il faut imaginer Sisyphe heureux. Et donc il a pas peur de la bagarre, il peut mener des batailles qui durent parfois 10 ans, 15 ans, mais il aime pas perdre. Et donc il s'accroche et il y prend beaucoup de plaisir. Et je tenais absolument à ce que ce plaisir se retrouve dans ce film qui est devenu du coup ludique.
Le plaisir de la parole action, c'était aussi le moteur de votre film précédent. Alors là, c'était Dupond-Moretti qui portait cette parole. Alors je ne sais pas si c'est un hasard, mais Dupond-Moretti était joué par Olivier Gourmet. Là, c'est Bully Lanners qui joue José Bové. Il faut donc des Belges pour représenter des Français un peu bigger than life. Hein.
C'est un hasard. Alors c'est vrai que si je reproduis ça sur le prochain long métrage, ça va commencer à être suspect. On va se demander pourquoi. Non, c'est un hasard total. Dans les deux cas, c'est toujours intuitif, hein, le choix des acteurs. J'ai trouvé que c'était des incarnations possibles. Et il se trouve qu'entre Bully Lanners et José Bové, il y a beaucoup de points communs. Et je crois beaucoup aux désirs qui se rencontrent. Et c'est vrai que Bully a eu tout de suite envie de se pencher là-dessus et à l'idée d'incarner José Bové. Et la rencontre, donc j'ai emmené le comédien chez son modèle sur le plateau du Larzac, et j'ai tout de suite vu, quoi, dans leur connexion, qu'on allait pouvoir travailler à partir de là et que Bully allait pouvoir être suffisamment libre pour créer son incarnation et trouver son chemin vers ce José Bové de cinéma.
Oui, précisément José Bové de cinéma, parce que animer un personnage qui existe pour de vrai, qui peut avoir son mot à dire, son droit de regard sur la façon dont vous le représentez, ça peut être aussi un peu paralysant. Enfin, on risque de tomber dans la déférence, qu'on va vous reprocher. Alors, quelle part de liberté vous avez pris dans la création de ce José Bové de cinéma ?
Alors d'abord, on raconte José Bové, eurodéputé au Parlement européen, sur une affaire qui n'est pas son dossier au départ, lui qui adore fumer la pipe pendant tout le film, sur le tabac. Donc c'est déjà un endroit où on le regarde, qui est très très loin de nos imaginaires à chacun, dans les champs de maïs. Et voilà, donc on est à cet endroit-là. Moi, je nourris le personnage et l'écriture du personnage dans le scénario de ma rencontre avec José et de ce qu'il me raconte. Je trouve qu'il a une forme de recul et de sagesse qui m'étonne à ce moment-là. Et puis ensuite, on va nourrir le travail avec Bully aussi, de sa rencontre à lui. Donc voilà, c'est un chemin circonscrit à cette affaire et dans les habits de l'eurodéputé.
Merci beaucoup Antoine Rimbaud, ça aurait pu être dans votre film, c'est votre version jazz de l'hymne à la joie de Beethoven, l'hymne de l'Union Européenne évidemment, joué par l'orchestre de jazz de l'OTAN. Mais oui, mais c'est Grégoire Auger qui signe l'excellente musique, très jazz également, d'une affaire de principe en salle depuis ce mercredi, à voir avant d'aller voter le 9 juin évidemment. Vous écoutez Plan Large France Culture, c'est à présent dans un western faussement classique que nous vous emmenons, il s'appelle Jusqu'au bout du monde. On aime bien aussi le titre original du film, The Dead Don't Hurt, les morts ne souffrent pas ou les morts ne font pas de mal, c'est selon. Ça commence étrangement par un chevalier en armure dans une forêt, on comprendra plus tard que le chevalier est une chevalière puisque c'est Jeanne d'Arc. Ça commence aussi par une femme qui se meurt, cette femme c'est une certaine Vivienne Lecoudy, elle est québécoise et le film qui navigue entre plusieurs temporalités va nous raconter son histoire belle et tourmentée avec un cow-boy très singulier, pas seulement parce qu'il est d'origine danoise. La première est jouée par Vicky Krieps, le second par Viggo Mortensen, dont c'est le second film comme réalisateur après Falling. Deux films donc inspirés par sa mère, Grace Gamble Atkinson, l'occasion pour le cinéaste-acteur de créer un très beau personnage féminin, comme on en voit peu dans les westerns, une femme moderne qui veut travailler pour gagner son propre argent et être indépendante, et surtout qui n'a pas besoin d'émuler le masculin pour survivre dans un monde d'hommes. Nous avons rencontré Viggo Mortensen lors de son passage à Paris, en se souvenant qu'on l'avait déjà vu il n'y a pas si longtemps, déjà dans un western.
Olsen.
Just Olsen.
Just Olsen.
Vivienne.
Just Vivienne.
Vivienne Lecoudy.
Oh. Enchantée. Vous êtes française?
No.
You're not American.
Yes, I am.
You don't sound like it.
And neither do you.
So where are you from, Vivienne Lecoudy?
It's a very long story.
I have plenty of time.
Bonjour Viggo Mortensen.
Bonjour.
La dernière fois qu'on vous a vu dans un western, c'était en France en tout cas, tout récemment, dans le film de Lisandro Alonso, Eureka, dans le premier volet, un western extrêmement violent. Une espèce de caricature de western violent. Est-ce qu'il y a un lien entre le film de Lisandro Alonso et le vôtre de western à la suite pour nous, spectateurs français?
Je crois pas. Oui, c'est une caricature du western télévisé des années 60, surtout, avec des choses de Lisandro, comme toujours, et de Fabian Casas, le scénariste. Non, je crois pas.
Mais est-ce que c'est pas un peu le genre de western que vous avez regardé quand vous étiez enfant?
Oui, j'ai grandi comme beaucoup des garçons de ma génération en regardant plein de westerns à la télé, qui avait plusieurs séries de westerns à la télé. Et il y avait encore des westerns au cinéma. Si on pense, quand j'avais 4 ou 5 ans, que j'avais déjà commencé à 3 ou 4 ans à aller au cinéma avec ma mère. 1962, on a The Man Who Shot Liberty Valance, par exemple.
L'homme qui a tué Liberty Valance.
On a un film très intéressant, Lonely Are the Brave.
Seuls sont les indomptés.
Avec Kirk Douglas. C'était presque la fin de l'époque dorée du western classique, disons. Mais j'ai grandi un peu avec ça et j'ai grandi aussi avec des chevaux. J'ai appris à monter à cheval quand j'avais 3 ou 4 ans aussi.
Votre personnage dans le film, quand Vicky Krieps, Vivienne, lui demande « Pourquoi tu es allé à San Francisco ?», il lui répond « Je voulais voir le bout du monde, la fin du monde ». Est-ce que c'était une manière de réfléchir aussi à ce moment de la civilisation américaine où c'est la fin de la frontière, on a conquis l'Ouest, on est arrivé à la mer?
Je crois que c'est une petite blague à la danoise de Olsen. Mais c'était l'idée qu'on avait, aller au ouest, quand on arrive à l'océan, c'est la fin. On a tout fait, c'est la boue du monde. À l'époque, on pensait comme ça. Oui, c'est une petite blague de Dolson. Très danois, peut-être, maybe not so funny, mais typiquement danois.
Votre personnage, justement, Olson, a un humour qui est très particulier, une façon très particulière d'être au monde. C'est quelqu'un qui est assez calme, qui écoute, qui est curieux du monde. Pourquoi est-ce que vous l'avez voulu comme ça ?
Bon, je voulais construire une relation, une histoire d'amour où on trouve une relation de confiance, où il y a deux personnes qui sont... Les deux, ils sont différents, mais ils sont les deux têtus, et indépendantes, et qui sont capables d'évoluer, de s'adapter à des nouvelles situations, à l'autre. Et c'est pour ça que la relation fonctionne pour eux, je crois. Dans cette relation, et dans l'histoire, mais dans cette relation spécifiquement, le pardon, se pardonner, pardonner l'autre, c'est plus important que la violence ou la vengeance, par exemple.
Justement, on pourrait appeler ce film, vous aviez joué dans le magnifique film de Cronenberg qui s'appelait « History of Violence », on pourrait appeler ce film « History of Non-Violence », ou en tout cas, il réfléchit sur la question de la violence dans la civilisation.
Oui, c'est question des choix individuels, la violence. Olsen ont le choix d'aller à la guerre, par exemple, pour des raisons morales. Si c'était aujourd'hui, il était peut-être allé à l'Ukraine. Mais il trouvait ça juste d'y aller. Il y a une décision qui pend vers la fin du film, vers Weston. Et c'est vrai qu'on peut dire que c'est une espèce d'histoire anti-guerre ou anti-violence, d'une certaine façon. Même si c'est une société dominée par des hommes violents.
Ben, c'est ce qui est justement très frappant dans votre film, c'est que vous n'êtes pas le premier à montrer des femmes dans les westerns, mais généralement, les femmes, pour survivre dans le western, doivent devenir un peu des hommes. C'est Calamity Jane dans le pire des cas, c'est-à-dire rentrer dans la logique de la violence. Le personnage de Vivienne refuse ça.
Elle est une femme ordinaire, avec une force unique intérieure, qui est forte d'une certaine façon. Une femme de l'époque qui incarne la décence ordinaire et le courage quotidien, on peut dire. Et je trouvais intéressant placer une histoire d'une femme qui est en train de pousser ses frontières comme femme, dans un moment historique où la frontière physique était ouverte, pas fermée, et dans une société hors la loi, dominée par des hommes. Je trouvais intéressant le contraste entre l'histoire de cette femme et l'histoire du moment.
Mais c'est une femme qui rit. Aussi, moi j'étais très frappé par le rire de Vicky Krieps. Je ne sais pas si c'était quelque chose qui était prévu dès l'écriture pour caractériser ce personnage de Vivienne ou c'est quelque chose qui a été amené par Vicky Krieps.
Non, elle a amené une certaine joie au personnage. C'était bienvenu. Et je suis content quand les acteurs, quand l'équipe technique arrive avec des idées, des cadeaux, disons. C'est ça que j'ai appris des bons réalisateurs, des bonnes réalisatrices. C'est de bien préparer tout avant de tourner et de rester ouvert tout le temps jusqu'à la fin, même pendant la période de montage, le mixage du son, aux idées des autres. Parce qu'une bonne idée peut arriver de n'importe où, de n'importe qui.
Votre mise en scène, justement, est-ce qu'elle était très préparée au départ ou est-ce que vous l'avez inventée sur le tournage en fonction des décors ? C'est une mise en scène qui est très classique, comme le western classique, c'est-à-dire qu'elle ne se voit pas, mais elle prend le temps. Il y a beaucoup de plans-séquences, notamment, tout ça a été prévu au départ ?
Oui, on n'avait pas beaucoup de temps pour tourner. 30 jours, 31 jours, c'est pas beaucoup pour une telle histoire. Et j'ai fait la même chose avec Falling. J'avais préparé le shot list. Je savais ce que je voulais tourner chaque jour. On avait beaucoup travaillé tous les aspects du tournage bien avant. Et puis, ça donne une ambiance plus décontractée où on peut écouter les autres. On peut essayer des choses différentes parce qu'on a le temps. On n'a pas le stress de ne connaître le texte, ne savoir que ce qu'on veut faire en tant que réalisateur. C'est beaucoup mieux d'être préparé. C'est ça que j'ai appris des autres. Mon école de cinéma, ça a été tous les tournages que j'ai eus pendant ma carrière. Mais il faut faire attention. On peut travailler pendant 40 ans, comme moi, sans apprendre grand-chose. Si on arrive comme acteur et on pense que son travail, son texte, sans faire attention aux autres acteurs, avec une idée fixe, on va pas apprendre beaucoup sur le travail collectif de faire du cinéma. Mais si on est intéressé au voyage d'aller du scénario à l'écran, que c'est toujours compliqué, avec des obstacles, des défis, des problèmes inattendus, même si on est bien préparé pour le tournage, on va apprendre beaucoup. Comment faire, comment pas faire, c'est ça que j'ai appris des autres. J'ai eu de la chance parce que j'ai travaillé avec plein de bons réalisateurs aussi.
On peut dire aussi que vous avez fait des bons choix, Viggo Mortensen.
Oui, il faut avoir de la chance. Mais il faut être préparé à profiter de la chance. Parce que si on n'est pas préparé, si on ne fait pas attention, ça peut échapper. Un accident, une idée inattendue.
I'm going to take the $100 bounty and volunteer for the army. They might pay even more because of my previous military experience.
Why? Why? This is not your problem. This is not your country.
It is now. It's not just about money. It's the right thing to do, fighting against slavery. Those who can should.
Bullshit, Olson. C'est pour tes affaires.
I won't be gone long.
Men are so stupid. So stupid. What if I don't wait for you, huh?
Il y a quelque chose aussi, j'imagine, qui vous a beaucoup inspiré, c'est les lieux où vous avez tourné. La grande affaire du western, c'est comment est-ce qu'on s'inscrit aussi dans un paysage. Mm-hmm. On a à la fois le sentiment de lieu canonique du western, ce canyon un peu désertique où se situe la cabane des personnages principaux, mais aussi des lieux qu'on n'a jamais vus, et notamment des forêts comme ça. Je crois n'en avoir jamais vu au western, des forêts aussi denses, aussi touffues. Comment est-ce que vous avez choisi ces paysages, Viggo Mortensen?
Bon, c'est ça qu'on a écrit. Et puis, je suis voyagé partout, un peu à l'ouest du Canada. Dans l'est du Canada, je savais qu'on allait trouver une forêt d'érable, des chênes, pareil à la forêt où ma mère est grandi. Je savais ça, je connaissais les paysages d'Ontario et du Québec. Au Mexique, c'était la première fois que je suis allé à Durango, mais je suis allé à Sonora et des autres endroits au Mexique. Et à la fin, on a décidé de tourner la plupart du film dans l'état de Durango, parce qu'il y a une grande variété des paysages, le désert, les montagnes, les fleuves, les canyons, un peu la forêt aussi. Et ce que j'aimais quand on était en train de localiser, de trouver les locations pour filmer, chaque fois que je trouvais quelque chose parfaite pour une scène ou une séquence, j'avais demandé au guide qu'est-ce qu'on a tourné ici. Il a souvent dit on n'a jamais tourné ici. Ah, c'est très bien. Parce que c'est pas question de montrer les mêmes, même si c'est fidèle à la flore du sud-ouest des États-Unis et du nord-ouest des États-Unis aussi. Dans notre film, il y a des endroits qu'on n'a pas vus avant. C'est pas Arizona, New Mexico, Californie, tous les endroits où on a vu tous les aussi des grands films, des bons films de Bud Baedeker, John Ford, Howard Hawks, etc., etc. Bon, j'étais très content de pouvoir faire ça, de montrer ça.
Un des grands plaisirs de ce film aussi, ce sont les langues qui sont parlées. On entend du français, on entend du danois, on entend de l'espagnol. Est-ce que c'était vraiment un acte politique, là, pour le coup, de montrer que l'Amérique, bah oui, c'est le fameux melting pot, mais avant de se mélanger, on garde ses origines.
Non, c'était pas un acte politique, et j'aime pas faire ça. Ça m'intéresse pas travailler du côté idéologique ni conceptuel. On peut parler de tout ça après, mais ça m'aide pas à jouer ni à réaliser. Travailler avec des idées, il faut travailler avec l'histoire, avec les personnages et les paysages, et savoir comment on veut montrer tout ça. Dans notre cas, je voulais faire un western classique. Respecter certaines règles ou codes, disons. Avec la photographie, l'idée c'était de montrer ce qu'on voit, les paysages, les endroits, d'une façon simple, élégante, sans attirer inutilement l'attention. Et avec les langues et les accents, les nationalités, les races dans le film, l'idée c'était d'être fidèle historiquement à ce moment, aux États-Unis. C'est la vérité. Même si on ne montre pas ça, normalement, dans les films, au moins les personnages principaux ne sont pas normalement des étrangers, des non-anglo-saxons. Bon, dans plein des westerns classiques, même des meilleurs films dans le genre, c'est souvent qu'on pense que bon, tout le monde parle comme si... S'ils sont de la Californie ou de Texas, et c'était pas comme ça en ce moment, et c'est pas comme ça maintenant. Et c'est important d'être fidèle à ça, même si, aux autres choses. Le décor, le travail avec les chevaux, le vocabulaire des personnages. C'était question de bien faire les choses. C'était pas une idée politique. Mais c'est bon que vous voyez ça, je pense, parce que c'est que les gens aux États-Unis ou en France, en Espagne, partout, c'est seulement des nationalistes aveugles qui disent que c'était autrement, ou qui veulent avoir la France pour les Français, ou les États-Unis pour les Américains. Qu'est-ce qu'ils veulent dire avec ça? On le sait. Et c'était pas comme ça, et c'est pas comme ça maintenant. C'est sûr. Mais c'était pas l'idée. Pendant le tournage, je pensais pas à ça. Je voulais montrer simplement comment ça a été.
Merci beaucoup, Viggo Mortensen.
Merci beaucoup.
Jusqu'au bout du monde de Viggo Mortensen est sorti en salle. Lui aussi ce mercredi, merci à Harold Manning d'avoir prêté, quand il le fallait, sa voix au presque parfait francophone qu'est le cinéaste. Vous écoutez France Culture et dans Plan Large, on ouvre comme chaque samedi le journal du cinéma avec, pour commencer, quelques autres sorties et ressorties de cette semaine.
Ikra.
Fantastic planet.
On le croyait détruit, il a disparu en 1939.
Voilà, quand ils ont passé leur belle jeunesse aux anciens propriétaires. Ils bossaient avec la police allemande.
Moi, je veux pas de ce tableau. Enfin, je veux pas avoir de sang sur les mains.
I'm not up for this.
What are you gonna do about it?
Hey, come on, I'll take it.
I got 5 stops to make.
What's your name?
Max.
Follow me.
What's the purpose of your visit?
We are moving here.
Is there anywhere to get some food?
No, ma'am.
Water?
Nope.
Tan nervioso. Ya sabes que me pone nerviosa a mí.
Sur vos écrans depuis ce mercredi, un peuple amazonien qui résiste comme il peut aux agriculteurs braconniers et au bolsonarisme, c'est la fleur de Buriti, la nouvelle immersion après le chant de la forêt des cinéastes ethnographes João Salavisa et René Nader Messora dans le monde des Krao, un film dans les pas de l'ethnofiction comme l'a pratiqué Jean Rouge, dont on aurait aimé qu'il soit un rien plus cinématographique, mais tout le monde n'est certes pas Lisandro Alonso ou Apichatpong Weerasethakul. Des hommes, ou plutôt des hommes, OMS réduit à l'état d'animaux de compagnie ou de nuisibles à exterminer par des géants bleus. C'est le chef-d'œuvre de René Laloux allié au génie visuel de Roland Topor, La planète sauvage, qui ressort en version restaurée avec un autre film plus méconnu du cinéaste Gandhar. Une prostituée par nécessité, un petit voleur et un jeune soldat cabossé qui tente de survivre dans le Japon au sortir de la Seconde Guerre mondiale. C'est l'hypnotique L'ombre du feu, le grand retour de Shinya Tsukamoto, un cinéaste qu'on avait un peu perdu de vue depuis ses très tonitruants débuts cyberpunk à la fin des années 80 avec Tetsuo. Il y a encore une plongée dans les arcanes du marché de l'art qui valent bien celle du Parlement européen. C'est Le tableau volé, le nouveau film de Pascal Bonitzer, brillamment écrit comme toujours et finement interprété par une ribambelle de vedettes dont on retiendra surtout le piquant quatuor Alex Lutz, Léa Drucker, Nora Hamzaoui et la toujours impeccable Louise Chevillotte. Un taxi dans la nuit de Los Angeles conduit par Jamie Fox, un tueur à gages melvillien, c'est Tom Cruise, et une ville filmée comme une pure abstraction, c'est le très épuré et toujours aussi fascinant Collateral de Michael Mann, réédité lui aussi en copie neuve 20 ans après sa sortie. Et puis enfin, le film qui vous fera réfléchir à deux fois avant d'envisager de vous installer aux États-Unis, car comme chacun sait, il faut d'abord passer les contrôles tatillons et paranoïaques des douanes américaines, c'est Borderline, le très tendu huis clos des Vénézuéliens installés en Espagne, Juan Sebastián Vázquez et Alejandro Rojas. Et puis il y a aussi le nouveau documentaire de Nicolas Peduzzi, plongé dans un hôpital en surchauffe, comme tous les hôpitaux français, évidemment, depuis que la crise du Covid a révélé l'état délabrement dans lequel les ont plongés les cures d'austérité successives et autres politiques aberrantes. Il y suit les traces d'un drôle de héros, là encore, un psychiatre volant, le seul de l'hôpital, qui court de service en service accompagné de ses internes, mais qui prend le temps, contre sa hiérarchie, celui d'écouter la parole de personnes en souffrance psychique ou victime de diverses addictions. Après ses aventures américaines, les déjà très réussies Southern Belle et Ghost Song, le cinéaste reste en terrain connu, celui des marges et de celles et ceux qui les hantent, des personnalités troubles, hors normes et paria, tant cet état limite, le titre de son nouveau film, pourrait définir tout son cinéma. Nicolas Peduzzi.
Ouais, donc il y a cette jeune fille là, qui est arrivée là, il y a quelques jours là, à l'hôpital. Là. Elle a fait une tentative de suicide assez grave. C'était pas la première en fait. Elle a fait un nombre de gestes suicidaires incalculables là, depuis qu'elle est devenue pubère. Elle a été dans tous les services de psychiatrie qu'on puisse imaginer en Ile-de-France. Elle a un peu épuisé tout le monde. Et en fait, pour essayer d'apaiser un petit peu sa souffrance là depuis maintenant plusieurs années, elle s'est essayée à prendre un milliard de trucs. Là, quand on a fait le répertoire de tout ce qu'elle a pris, enfin, c'est donc des trucs que je connaissais pas, de nouvelles drogues de synthèse. Elle me disait que finalement, c'est la substance qui l'apaisait le plus, c'était la kétamine. Et donc là, je me dis, c'est peut-être un heureux hasard qui fait que cette molécule vient de sortir là. Donc je me dis qu'il faudrait peut-être qu'on l'essaye sur elle.
Ce qui m'intéresse, c'est la limite en général, la marge, les gens qui sont à côté, en fait, qui sont pas, dans le cadre du film, et ta limite, qui sont pas dans la productivité et qui regardent le monde différemment. Aujourd'hui, on pourrait penser que c'est absurde, mais finalement, c'est peut-être eux qui sont plus sensés. C'était ta limite, c'est ça, quoi. Un peu pour moi aussi. Et c'est vrai que je me suis rendu compte plus tard que dans aussi mes autres films, il y avait toujours cet intérêt pour la santé mentale, la psychiatrie. Et donc il y a ça aussi, il y a l'état limite de comment on perçoit nos propres préjugés. C'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent et qui m'intéresse et que j'aime bien aller voir de plus près.
Le médecin que vous filmez, Jamal Abdelkader, présente son métier comme construire des liens avec des personnes, être attentif à leurs paroles. C'est en ça que vous vous êtes reconnu en lui peut-être, puisque ça peut correspondre à votre propre démarche cinématographique.
C'est vrai que je me suis reconnu, mais surtout c'est l'idée de pas être isolé. En fait, le filmer m'a permis de sortir aussi de mon propre nombril, comme on dit, et d'aller voir ailleurs, aller voir d'autres mondes qui n'étaient pas le mien. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec ce support-là du documentaire, qui nous donne quand même une liberté assez exceptionnelle. Mais surtout, c'est que ça nous permet d'être vraiment en immersion, de s'intéresser à d'autres, de s'arrêter sur des vies, sur des situations, des... Et je pense que, d'une certaine façon, oui, le lien que le Jamal essaie de faire, c'est aussi ça. Il a aussi on sent qu'il est fasciné par les fous, entre guillemets, qui s'y reconnaît aussi un peu. C'est des discussions qui se font comme ça. Et le lien, pour moi, le lien qu'il crée avec les patients, c'est quelque chose de très subtil, de très fragile. Et à chaque fois, c'est un travail différent. C'est une façon différente d'aborder un patient. Et c'est ça qui m'a plu chez lui.
À limite, le nouveau film de Nicolas Peduzzi est sorti en salle lui aussi ce mercredi et il est soutenu par France Culture. Quelques annonces encore du côté de la Cinéthèque, la cinémathèque en ligne des cinéastes, notre partenaire. Vous pourrez notamment, outre la liste mensuelle de 50 films qui ce mois-ci échoit au catalan Albert Serra, découvrir plusieurs films d'une grande cinéaste méconnue en France, l'allemande Claudia von Alemann, que nous avions reçue dans Plan Large le 23 mars au moment du cinéma du réel. On vous recommande particulièrement son documentaire sur mai 68. Ce n'est qu'un début, continuons le combat et son très beau voyage à Lyon sur les pas de la militante socialiste et proto-féministe Floria Tristan. Et pour gagner des abonnements d'un an à la Cinéthèque, c'est à présent, on le rappelle, sur le compte Instagram de France Culture. Pour voir du cinéma différent, on vous recommande aussi une très riche rétrospective Cinéma d'Afrique de 1960 à 1990, de la Noire 2 d'Ousmane Sembène au bal poussière d'Henri Duparc. C'est à voir à l'Institut Lumière à Lyon jusqu'au 4 juin. On signale enfin, et pas seulement parce que la demoiselle Charlotte Garçon est là, le beau est tout juste paru, troisième hors-série des Cahiers du cinéma consacré au cinéaste enchanteur Jacques Demy. Et ceci annoncé, il est temps d'entendre une autre cinéaste trop précocement disparue.
Souvent, je pense que les films que j'aime le mieux tourner, moi, c'est les films où j'écris le moins, ou les films où j'ai quelques notes. Mais bon, c'est des films assez difficiles à financer, parce que on finance toujours avec un texte et des acteurs. Enfin, je veux dire, c'est malheureusement, je pense que si on finançait avec des notes, le cinéma serait beaucoup plus merveilleux, fantastique, serait mieux.
Les producteurs veulent la preuve par l'écrit ?
Oui, on passe par l'écrit. On passe par l'écrit, et c'est presque le seul moment où ils peuvent vous dire, là, je ferais comme ci, ou là, où je ferais comme ça. Donc c'est en fait un des rares moments où ils ont un pouvoir sur le film. Et ils essayent d'en prendre au tournage, mais c'est très difficile pour eux. Ils essayent d'en prendre au montage, mais c'est aussi très difficile. Tandis qu'à l'écriture, On dépend un peu d'eux pour produire le film, et c'est à ce moment-là, que ce soit eux ou les gens qui vont donner de l'argent, enfin tout ce qui a à voir avec l'argent, tout le monde se jette sur le texte, surtout dès qu'il y a beaucoup d'argent en jeu.
Les plus anciens aficionados de France Culture auront sans doute reconnu la belle voix de Chantal Akerman. Elle était invitée par Alain Weinstein dans son émission du jour au lendemain. C'était le 19 mars 1999. La cinéaste avait beau se méfier, disait-elle, du texte et de l'écriture. Elle a beaucoup écrit, elle a beaucoup parlé aussi. Et le tout, œuvre écrite et parlée, est rassemblée dans un superbe objet, un très volumineux livre en 3 volumes, rassemblé et édité par Cyril Béguin aux éditions L'Arachnéen. Ce qu'on vient d'entendre, il figure ainsi dans le volume 2, page 825. De quoi patienter pour ceux qui ne peuvent aller en ce moment visiter la majestueuse exposition consacrée à Chantal Akerman aux Beaux-Arts de Bruxelles. Et en attendant l'avenue de la dite expo, jeu de paume à l'automne avec rétrospective intégrale à la clé. Nous ne manquerons pas d'en reparler dans Plan Large. Mais pour l'heure, Charlotte Garçon, alors que raconte ce livre de la cinéaste, écrivaine et parleuse qu'était Chantal Akerman?
Alors en fait, Antoine, je pensais lire un livre qui compléterait effectivement ma vision des films de Chantal Akerman. J'imaginais que cette lecture exigeait quand même qu'on soit déjà spécialiste ou du moins critique de cinéma pour apprécier cet entour. Or, pas du tout. Quand j'ai ouvert cette édition, cette excellente édition, c'est tout autre chose qui s'est produit. D'abord, même si on n'a vu aucun film d'Akerman, on y a l'impression très forte d'y rencontrer quelqu'un. Pour deux raisons principales, l'importance de la voix, hein, au premier chef, il y a une texture vocale chez elle, une voix reconnaissable qu'on vient d'entendre et qu'elle inclut très tôt dans ses films, dans « Je, tu, il, elle » par exemple, son premier long métrage de 1974. Mais cette voix passe aussi entièrement dans son écriture, dans des phrases, parfois sans coordination, juxtaposées, si bien que, en lisant ses écrits entrecroisés avec 20 entretiens choisis, on est frappé de la cohérence entre l'écrit et la parole. On rencontre aussi quelqu'un en lisant ses volumes parce qu'il saillit le rapport intime de Chantal Akerman à sa mère. Mais un rapport que la cinéaste articule à une conscience collective, à l'histoire même, avec un grand H, une grande H. Et surtout, ce qui importe, c'est la forme qu'elle a donnée à cette relation complexe à sa mère. Alors, il y a certes des récits autobiographiques directs, parus plutôt à la fin des années 90 et dans les années 2000 et 2010, des livres à part entière, comme Une famille à Bruxelles, sur la fin de vie de son père, dans lequel elle va glisser du « elle » au « je » de sa propre mère. Et puis un texte qui est moins connu, qui s'appelle « Le frigidaire est vide, on peut le remplir », qui est dans un gros volume, un album qu'elle avait fait paraître au Cahier du cinéma avec beaucoup de photos. Et ma mère rit sur sa mère âgée et sur, je cite, « pourquoi je suis restée un vieil enfant et qu'ainsi je n'ai pas pu me faire une vie ». Et la seule chose qui sauve, c'est l'écriture, et encore. Mais quand j'écris, c'est encore sur elle, donc ma mère, et ce n'est pas une libération comme les gens qui n'écrivent pas s'imaginent. Écriture de soi, donc, mais un soi parfois dissous, parfois réduit à un tu dans News from Home, son film de 1977 qui monte des vues de New York sur la lecture en voix off de lettres que sa mère lui a écrites de Bruxelles, alors qu'elle, à 23 ans, découvrait en Amérique le cinéma expérimental. Ce rapport à la mère, on le décèle aussi, bien sûr, dans la femme au foyer que joue Delphine Seyrig dans Jeanne Dielman, 23, Quai du Commerce, 1080, Bruxelles, en 1975. Akerman a elle-même relié les rituels domestiques maniaques de Jeanne et le fait que sa mère avait été déportée, avait donc un rapport au temps et à l'emploi du temps. « Il n'y a rien à dire, disait ma mère, et c'est sur ce rien que je travaille », dira la cinéaste. Alors, le volume 1 de cette œuvre écrite et parlée contient non seulement le scénario de Jeanne Dielman, mais aussi celui d'un film jamais tourné qui l'a précédé, déjà sur une femme divorcée qui se prostitue, intitulé « Elle vogue vers l'Amérique ». Et on lit dans ses premières lignes « On dirait que la vibration régulière du frigo accentue encore l'impression d'ordre. Elle lui donne quelque chose d'irrémédiable. Le regard lent, insistant qu'on pose sur cette cuisine semble être une effraction plus grande que s'il y avait là trace de vie. » On voit ici que le texte et la mise en scène sont indissociables et que donc cette somme de textes n'est pas un à côté, mais vraiment un recueil essentiel pour comprendre le travail multiple et multimédia de Chantal Akerman, les métamorphoses de ce qu'elle appellera son ressassement. Il y a une forme qui manque quand même ici, c'est le théâtre. et du théâtre, Ackerman, enfin qui manque presque. Ackerman dit avoir, je cite, « beaucoup de mal avec le fait qu'il y ait quelqu'un qui soit là sur scène et nous on est là et si on bouge on fait du bruit ». Définition presque enfantine et je trouve assez drôle, très pied dans le plat, qui dit à la fois l'évidence de ce que c'est que le théâtre, effectivement sans acteur ça n'existe pas, et le rapport au corps compliqué de Chantal Ackerman. Alors on peut se poser la question un peu comme un criminel, comment se débarrasser du corps ? La réponse passe, hélas, on le sait, par le suicide réel de la cinéaste en 2015, suicide fictif, dans son tout premier film tourné et joué par elle à 18 ans, Saute ma ville, où une jeune fille chante, prépare des spaghettis et se fait exploser. Mais se débarrasser du corps, c'est heureusement aussi, dans beaucoup de ses films et dans ses meilleurs textes, trouver un rythme qui dose l'organique et le mécanique, qui dose la présence et l'absence d'un corps, l'image et l'interdit judaïque de l'image. Ce qui compte, dit Ackerman à Caroline Champetier dans un très bel entretien de 1978, c'est la musique et le rythme dans un dialogue. J'allais à la synagogue avec mon grand-père et je suis allée à l'école juive, partout c'était le même rythme. Or cette mélopée, cette pulsation, elle la trouve absolument entre lumière sous-exposée, éclair, climat, danse et chanson, on l'entend, dans un film trop peu vu aujourd'hui qui s'appelle « Toute une nuit », où évoluent des personnages le temps d'une nuit très chaude de 1982, avant un orage violent à l'aube. Ce film, la cinéaste le décrit comme une série de fragments qui ont presque tous à voir avec le frémissement, la tension amoureuse ou sexuelle. Ces fragments sont comme des morceaux d'intensité. Des morceaux d'intensité, voilà la meilleure définition des écrits de Chantal Ackerman dans ses volumes qui condensent l'intensité vivante et la charge explosive de sa voix.
Doucement, et mon cœur sera froid, sera même plus soleil. Quand je n'aurai plus le temps de trouver tout le temps du courage.
Merci Charlotte Garçon. Chantal Ackerman, œuvre écrite et parlée, édition établie par Cyril Béguin, c'est chez l'Arachné, hein. Grâce Laurent Soir rendu. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Alex Dang et Eric Audra. L'émission était préparée par Marie-Soisic Fraboulet et réalisée par Anne-Laure Chanel.